Il est 19h, presque 22.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
C'est une campagne de très grande ampleur qui commence aujourd'hui et que vous verrez forcément à la télévision et sur de multiples supports aussi. Est-ce que vous verrez dans cette publicité, ce sont des couples hétéros et des couples de femmes et une femme seule qui explose de joie apprenant qu'un enfant est en route. Le budget pub de l'Agence de la biomédecine a été multiplié par 5 pour ça. Parce qu'il y a urgence, il y a même deux urgences. La première, c'est que depuis l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes seules, la demande est bien plus forte. Depuis l'adoption en août de la loi, ce dont témoignait un médecin récemment dans un reportage, c'est qu'il y a eu autant de demandes de PMA en 3 mois que d'ordinaire en 1 an. Et puis, deuxième urgence, il faut augmenter la variété des profils de donneurs. Les couples issus de la diversité, comme on dit, attendent plus longtemps que les autres parce que le donneur classique est un homme blanc. Or, il existe ce qu'on appelle des critères d'appariement, et on en parlera, des parents, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur orientation sexuelle, qui souhaitent que leur enfant leur ressemble, et pour eux, c'est bien plus compliqué. Bref, il faut une nouvelle génération de donneurs, des jeunes, de tout profil. C'est pour ça d'ailleurs qu'on verra cette campagne sur les plateformes, sur Instagram, sur Deezer, sur des sites de podcast, là où est la société qui bouge et qui échange vers une génération pour qui tout cela est tellement normal que la levée de l'anonymat n'effraie pas, pour qui la PMA pour toutes n'a jamais fait débat, mais qui doit savoir aussi que pour que cette loi fonctionne, il faut des dons. C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, c'est vous, René. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
On vous écoute, René.
Ma question était simple, c'était est-ce qu'il y a une limite d'âge pour faire un don ?
Eh ben, vous avez quel âge, René ?
57.
Vous avez quel âge ?
57 ans.
57 ans, je pense que vous avez déjà dépassé la limite d'âge, mais on va essayer de répondre à votre question très concrètement. Merci beaucoup pour cette entrée en matière et pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Claire de Vienne est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin référente en AMP, en assistance médicale à la procréation, à l'Agence de biomédecine précisément. Et Catherine Clavin est avec nous également. Bonsoir Madame Clavin.
Oui, bonsoir.
Vous êtes coprésidente de l'association APGL, l'association des parents gays et lesbiens. Claire de Vienne, réponse claire pour notre ami René, 57 ans, c'est trop vieux.
C'est trop tard pour
mais
René.
Mais sinon, comment ça se passe ?
Pour donner, il faut être majeur. Et pour, quand on est un homme, avoir moins de 45 ans. Et quand on est une femme, moins de 38 ans. Ce sont les périodes où on est les plus fertiles.
Voilà. Et donc cette règle n'a pas changé pour le coup. Loi bioéthique ouverte ou pas bioéthique, ça pour le coup, ça fait partie des règles qui ne bougent pas et qui ne changent pas.
C'est la même chose. Notre fertilité est la même.
Alors parlons de chiffres pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. Je disais tout à l'heure et je l'ai vu dans un reportage tout simplement en préparant cette émission dans un des centres, dans un des Secos, c'est comme ça qu'on les appelle, un centre de dons. Une femme disait que la demande avait été extrêmement importante, en 3 mois à peu près l'équivalent d'un an. Est-ce que vous diriez qu'on est à peu près dans ces chiffres-là ? Est-ce qu'on est, oui, dans un véritable embouteillage depuis que la loi bioéthique est ouverte aux couples lesbiens et aux femmes ? Et que donc, vraiment, il commence à y avoir un réel problème ?
Il
y en avait déjà un d'ailleurs. Mais...
Les professionnels le disent tous. Hein. Il y a en France une trentaine de centres qui font et qui sont autorisés pour le don de spermatozoïdes. Et tous rapportent que le nombre de demandes de nouvelles consultations explose. On pense qu'on est à x4, x5, x6.
Ah oui.
C'est pas des chiffres qui sont précis pour l'instant. Mmh. Hein. L'Agence de la biomédecine a une nouvelle mission qui est de piloter un comité de suivi de la mise en place, justement, de ces nouvelles mesures en assistance médicale à la procréation. Et on attend les résultats d'une enquête pour mi-novembre, où on aura peut-être plus précisément des chiffres pour répondre à cette question-là. Mais l'afflux est massif.
Et en même temps, est-ce qu'on pouvait pas s'en douter, en fait, parce qu'elle a mis tant de temps à arriver, cette loi, ça a été tellement étalé dans le temps. Il y a surtout eu tellement de temps entre le vote de la loi et puis, effectivement, l'application effective que, est-ce qu'on a manqué d'anticipation, en fait? Est-ce qu'on aurait pu anticiper là-dessus, donc faire la campagne plus tôt, par exemple, pour être prêt à cet afflux de demandes?
En France, il n'y a pas de statistiques selon le statut matrimonial et l'orientation sexuelle, ni sur le nombre de femmes qui pourraient éventuellement faire cette démarche. Donc, on n'avait pas les moyens de connaître précisément le nombre de ces demandes. Et maintenant, c'est le moment d'agir et de faire en sorte que les centres, qui sont le goulot d'étranglement de tout le parcours des femmes, qui voient un gynécologue et puis qui toutes devront passer par un de ces 30 centres français, ils ont besoin de ressources humaines supplémentaires, de moyens en équipement, et c'est ce qui qui est en train de se mettre en place actuellement
alors,
en France.
On va bien sûr y revenir à ces méthodes. Catherine Clavin, moi j'imagine que depuis votre chapelle à vous, si j'ose dire, de l'association des parents gays et lesbiens, est-ce qu'on était dans les starting blocks en quelque sorte, tout en sachant très bien qu'il y aurait effectivement un moment goulé d'étranglement et que ce serait de toute façon extrêmement difficile?
Oh ben, dans les starting blocks, ça c'est certain, et depuis bien longtemps, je crois que les couples de femmes attendaient avec impatience, et vu la durée, je dirais, des débats qui ont précédé pour que la loi bioéthique soit promulguée, oui, elles étaient dans les starting blocks, et effectivement, on comprend qu'il y ait aujourd'hui un nombre de demandes assez importantes et qui puissent un petit peu effrayer, je dirais, les centres. Mais bon, on verra dans le temps, effectivement, comment les choses s'organisent, parce que on a déjà certaines réactions de certains centres qui ont l'air plutôt d'encourager à continuer à aller à l'étranger que de venir dans les CHU et dans les CECOS français.
Parce que qu'est-ce que vous diriez, vous, Catherine Clavin, on posera la question à Claire de Vienne aussi, vous, des couples que vous voyez et qui sont autour de vous, aujourd'hui, le délai d'attente, qu'est-ce qu'il dit ?
Bah, le délai d'attente, on le connaissait pour les couples hétérosexuels, et il était d'environ entre 6 et 18 mois, Madame de Vienne pourra le confirmer. Là, aujourd'hui, le problème est que les informations qui sont données aux femmes qui s'inscrivent pour recourir à la PMA en France sont plus que diverses et variées, parfois complètement contradictoires. Certains centres annoncent 2 ans pour pouvoir arriver au bout de son parcours, enfin, pour pouvoir bénéficier du don, quand d'autres disent non, ça ira beaucoup plus vite, ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, il n'y a pas d'homogénéité entre les centres, évidemment, tant dans l'information que, je dirais, dans la pratique ou dans le stock de gamètes. Donc, c'est un petit peu compliqué.
Claire de Vienne, 6 à 18 mois, est-ce que ce chiffre est plus large même aujourd'hui, ou est-ce qu'on reste à peu près dans cette proportion?
6 à 12 mois, voire dans de rares cas, 18 mois, ce sont les chiffres des délais d'attente avant la promulgation de la loi de bioéthique. Donc là, on n'est pas en mesure de donner des chiffres précis sur des délais d'attente, puisqu'on est vraiment dans une phase de mutation et de préparation des centres. Donc, on peut pas vraiment encore annoncer de délai. Ce qui est important de comprendre, c'est que les stocks qu'a évoqué à l'instant Madame Clavin, ils sont importants en termes de paillettes de spermatozoïdes en France. Et la répartition n'est pas tout à fait égale sur le territoire français selon les centres. Il y en a qui sont plus riches que d'autres. Ouais. Néanmoins, les stocks sont là. Et la chose importante maintenant, c'est qu'il y ait suffisamment de personnes pour accueillir toutes les demandes sur place dans les consultations.
Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait multiplier les CECOS, ou en fait non, ça n'aurait pas de sens, puisque effectivement, il faut quand même que derrière les dons suivent. Donc, est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de monde dans les CECOS, ou est-ce qu'il faut se dire que si on en multipliait un certain nombre, ce serait plus facile?
Ce qui est important, c'est des personnels qui soient formés à cette spécialité très particulière, et chaque centre doit être autorisé. Pour l'instant, ce qui va aller le plus vite, c'est d'augmenter le nombre de personnes formées, des professionnels formés à l'accueil pour cette activité-là.
Et formés à l'accueil aussi parce que depuis le mois d'août, on accueille aussi des femmes seules, on accueille aussi des couples lesbiens. Ça veut dire qu'il faudrait effectivement, oui, former mieux à ce genre d'accueil aussi. Il n'y a pas que les hétéros. Ou est-ce que ça marche sans souci?
J'entendais par former à l'accueil pour accompagner les personnes vers un don de spermatozoïdes, quel que soit leur statut matrimonial. Non, ça, les professionnels, c'est pas une problématique.
J'ai une autre question, Claire de Vienne. Est-ce qu'il y a une sorte de territorialisation des CECOS? Ça veut dire que si moi je suis ici en région parisienne, mais je sais que c'est plus compliqué parce que il y a évidemment plus de monde et donc potentiellement moins de possibilités. Est-ce que j'ai pas intérêt à aller m'adresser à un CECOS qui est à Nantes ou à Bordeaux? Est-ce que j'ai pas le droit?
Alors, il n'y a rien dans la loi qui interdise d'aller demander et de faire une démarche ailleurs.
Il y a des endroits
peut-être
qui
serait
un peu
plus intéressant dans cette phase-là de mise en œuvre, c'est que les centres qui sont les plus pourvus en gamètes puissent coopérer avec des centres qui, eux, sont moins pourvus.
Et c'est ce que j'allais vous demander, c'était ma question suivante. Est-ce qu'il peut y avoir des allers-retours de gamètes ou chacun, au contraire, garde les siennes jalousement au cas où il y aurait plus de demandes à un moment?
Les gamètes, elles sont conservées dans ce qu'on appelle des paillettes, c'est à moins de 196 degrés, c'est quelque chose qui peut être transporté, mais ça nécessite toute une démarche de sécurité de qualité et de faire en sorte qu'il y ait des bonnes coopérations entre le centre et la personne qui réalisera l'insémination.
Bonsoir Christelle.
Oui,
bonsoir. Ah, vous êtes là, bonsoir, on vous écoute.
Alors moi j'avais une question idée qui vient aussi de mon expérience. Voilà, c'est face à la pénurie des dons de gamètes des hommes depuis l'ouverture de la loi aux femmes seules ou lesbiennes, pourquoi on ne demande pas à chaque couple ou personne qui rentre dans un processus de PMA d'arriver avec lui-même une personne, un ami, susceptible de faire un don, bien sûr anonyme, mais ça permettrait de remplir les congélateurs des sécottes. Et ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai vécu en Belgique, il y a quelques années, face à une pénurie. Ils ont mis en place ce système et j'ai trouvé ça vraiment chouette parce qu'en plus, il y a un lien affectif. Le donneur, il fait ça pour aider une personne ou un couple de qui il est ami. Et bien sûr, c'est anonyme.
Merci beaucoup pour cette remarque, cette question-remarque, comme vous disiez vous-même, Christelle. Catherine Clavin, moi, je me suis même laissé dire que, de toute façon, précédemment, c'était parfois ce qu'on suggérait, en fait, aux femmes. Venez avec votre donneur sous le bras, si j'ose dire.
Alors, c'est même ce qu'on a pu voir en France et ce qu'on peut voir. Là, on a effectivement, dans notre association, une expérience comme ça, où un couple a eu cette réflexion-là par un centre, mais il faut quand même savoir, et là aussi sous le contrôle bien sûr de Madame de Vienne, c'est que d'une part le don dirigé n'est pas permis en France, et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement subordonner le bénéfice d'un don de gamètes est une infraction pénale en fait à la désignation évidemment d'un donneur. Donc c'est pas, en tout cas ce n'est pas légalement envisageable en France. Maintenant c'est dommage, c'est peut-être dommage. On peut le regretter, effectivement. Et après, il y a des arrangements avec la loi, manifestement.
Et il y en a, que les choses soient claires, Claire de Vienne, là-dessus.
Je tiens quand même à dire que les personnes qui ont besoin de recourir à une AMP avec un don de gamètes sont les meilleurs ambassadeurs pour expliquer à quel point c'est utile, c'est important. Et ça, la seule chose qui leur permet de réaliser leur projet d'enfant.
Et c'est pour ça d'ailleurs que la campagne que vous lancez est dans ce sens-là, parce qu'effectivement, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, on voit des couples, et quelle que soit leur orientation sexuelle d'ailleurs, qui sont extrêmement contents de se retrouver avec un test positif. Je vois bien la tentative que vous faites dans cette campagne, et à qui vous vous adressez, ne serait-ce qu'en allant sur les plateformes, en allant sur... Est-ce que ça veut dire aussi que le donneur type, on va le dire comme ça, Claire de Vienne, est un homme d'un certain âge, donc qui est en train de taper sur la limite d'âge doucement, qui est de toute façon tout le temps blanc, ou à une écrasante majorité, est-ce qu'on a vraiment le même profil depuis très longtemps qu'il faut essayer de bousculer un peu ?
Alors, le donneur actuel, il est quand même dans la moitié des cas, un peu plus. C'est quelqu'un qui n'a pas encore eu d'enfant. D'accord. Alors, j'ai pas les chiffres de les moyennes d'âge des donneurs de spermatozoïdes. Par contre, le problème de la diversité est majeur. C'est-à-dire que c'est excessivement rare qu'un homme qui se présente pour donner ne soit pas blond. Et ça pose vraiment des problèmes pour toutes les personnes issues de la diversité qui ont besoin d'un don de gamètes et qui se voient, s'ils souhaitent avoir un donneur qui a des caractéristiques physiques proches des siennes, obligé d'attendre beaucoup plus longtemps qu'un couple blanc ou qu'une femme seule blanche.
Ça s'appelle l'appariement, en fait. Et moi, j'étais même presque étonnée de savoir comment ça marchait et ce qui existait, en fait. Parce qu'on sait bien qu'en France, on ne fait pas de choix, évidemment, parce que ce serait terrible. Mais jusqu'à quel point on peut faire un choix, justement ? Est-ce que c'est une... comment ça marche, en fait ? Est-ce qu'il y a une catégorie qui dit noir, qui dit asiatique ? Comment ça fonctionne réellement, en fait, cet appariement ?
On comprend bien que comme il y a très peu de personnes qui ne sont pas blanches, il n'y a pas un appariement sur des critères physiques extrêmement précis. Et on sait aussi que c'est pas parce que...
Et presque heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire heureusement derrière. Je vois bien ce que ça veut dire que une espèce de critère qui est très géographique, très large géographiquement en fait, mais on est d'accord que ça s'arrête là.
Ça s'arrête là, on peut pas être si précis que ça, et c'est pas parce qu'on a des caractéristiques physiques dites proches que l'enfant vous ressemblera complètement.
Bien sûr. Est-ce que ce sont des demandes qui sont régulières ? Est-ce que vous croisez vraiment beaucoup des couples qui se heurtent à ce problème-là ?
C'est très régulier, et c'est partout en France que ce problème surgit et attriste non seulement les couples, mais tous les professionnels qui sont impuissants à aller et accompagner ces couples jusqu'au bout de leur demande et de leur projet d'enfant. C'est important, et c'est pour ça que l'agence travaille avec des influenceurs. Et on a besoin de faire passer ce message-là, parce qu'il y a encore, je pense, un tabou de l'infertilité dans de nombreuses cultures en France, et que c'est un frein. Et le manque d'information est aussi un frein important, donc je suis très heureuse qu'on puisse en parler ce soir.
Mais c'est pour ça que cette campagne est faite d'ailleurs, et qu'elle est, comme je le disais tout à l'heure, sur un certain nombre de supports. Vous avez fait appel effectivement à des influenceurs, à des gens qui peuvent dire, parler ici et là et passer ce message-là. Comment se fait-il que, est-ce qu'on a une idée, comment se fait-il que ce sont des gens qui n'ont jamais eu d'enfants, par exemple, pas encore eu d'enfants, qui sont le plus souvent des donneurs? Est-ce qu'on sait pourquoi?
Les gens qui n'ont pas eu d'enfants, dans la précédente loi de bioéthique, pouvaient se voir proposer de congeler une partie de leur gamète. Ce qui est plus le cas pour les femmes qui feraient un don d'ovocytes aujourd'hui et qui n'auraient pas déjà eu d'enfants. Mais quand cette mesure est arrivée en 2016, on a constaté un surcroît de dons qui a permis d'augmenter l'offre pour tous les couples à l'époque.
Sur cette question de l'appariement, Catherine Clavin, est-ce que c'est des choses aussi que vous rencontrez, vous, dans votre travail de coprésidente de l'Association des parents gays et lesbiens? Est-ce que là aussi, c'est des sujets dont on parle?
Oui, c'est des sujets dont on parle. C'est assez particulier, effectivement. Après, c'est très inégal. Mm-hmm. Il y a évidemment celle... On peut rencontrer une volonté de la part de la femme qui ne va pas accoucher, d'avoir un enfant qui lui ressemble. Mm-hmm. Voilà, c'est une manière aussi de s'investir dans sa parentalité. Mais enfin, il y a à l'inverse on a beaucoup entendu que dans un couple de femmes, de toute façon, on savait bien que l'enfant était né de PMA et que donc l'appariement n'avait pas d'intérêt ou pas d'importance en fait en réalité. Donc c'est pas égal, c'est assez divers et varié, mais effectivement, selon les pays vers lesquels les couples de femmes allaient, il y avait effectivement des endroits où on leur proposait un appariement, et puis d'autres où on leur disait non, vous n'avez pas besoin d'appariement parce qu'on sait très bien que votre enfant est issu de PMA.
Mm-hmm. Claire de Vienne.
Je voulais ajouter que la loi prévoit qu'il y ait des règles sur l'attribution des gamètes et des embryons dans le cadre du don qui soient publiées et. À l'issue de la promulgation, donc on attend ces règles avec impatience.
Est-ce qu'on sait d'ailleurs si nous sommes les seuls en France à avoir des problèmes de diversité dans nos donneurs, ou est-ce que c'est de toute façon quelque chose que rencontrent aussi des problèmes que rencontrent aussi nos voisins? Vous savez ça, Claire de Vienne, je ne vais pas vous piéger. Est-ce qu'on en a une idée
ou pas? J'ai vraiment pas de chiffres à vous donner à ce sujet.
Il y a pas de souci avec ça. On le sait, Catherine Clavin, ça ou pas? Encore une fois, je ne vais pas vous piéger non plus. Je m'interroge juste pour savoir si c'est nous ou si c'est tout le monde en fait.
Non, c'est difficile effectivement. Moi, je vais botter en touche aussi parce que on n'a pas de statistiques, on n'a pas de chiffres, donc on peut pas trop parler effectivement pour la manière dont les choses se passent à l'étranger sur ce plan-là. C'est voilà.
Sylvie, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Sylvie.
Alors en fait, vous avez commencé un peu à répondre à ma question. Je me demandais moi quelles étaient les questions qui étaient posées aux couples qui viennent pour une PMA. Pour sélectionner le donneur, en fait. Est-ce que, justement, on demande aux gens, comment vous le voulez, en fait? Est-ce que vous le voulez blond, brun, noir, etc.? Ou comment se fait, justement, cette sélection, en fait? Parce que là, vous dites, il y a des centres où on dit aux gens, aux couples de lesbiennes, vous n'avez pas besoin d'appariement, mais qu'est-ce qu'en pensent les couples en question?
On va poser la question d'abord à Claire de Vienne. Qu'est-ce qu'on demande? Quelles sont les infos auxquelles on a accès?
Alors en France, il y a vraiment pas de catalogue avec les caractéristiques.
On n'est pas aux États-Unis.
Ouais. On est loin, très loin de ça pour des raisons éthiques et les caractéristiques physiques, qui c'est essentiellement la couleur de la peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Voilà, je crois et encore, c'est pas toujours possible de faire exactement. Donc voilà, on va rester très très flou là-dessus parce que on n'a pas plus de critères que ça.
Catherine Clavin, là-dessus, et on est d'accord que je vais le poser différemment. Est-ce qu'on est toujours heureux nous en France d'avoir si peu d'infos en fait, en se disant que oui c'est la bonne voie, on va dire.
Non, mais il y a pas de bonne et mauvaise foi. Enfin, mauvaise foi, c'est le mot.
C'est pas un bon mot. Le lapsus est intéressant.
Voilà, le lapsus est révélateur. Mais non, il y a pas. Franchement, effectivement, ce qu'on rencontrait à l'étranger, c'était précisément ça. Hein, ouais. Dans les critères physiques, il y avait pas grand chose que l'on puisse. Attention, il y avait rien à imposer. Et finalement, l'établissement hospitalier faisait bien ce qu'il voulait. On pouvait effectivement. Ce qui se passe notamment en Espagne ou en Belgique, c'est qu'on demande évidemment, le centre demande d'avoir des photos des deux femmes lorsqu'il s'agit d'un couple de femmes. Et puis, il fait bien ce qu'il veut avec. Donc, oui, ça s'en tient sans doute, évidemment, à la couleur des yeux, couleur des cheveux. Enfin, moi, j'avais entendu une réflexion dans un établissement belge où on disait « Ne vous inquiétez pas, il s'agira d'un caucasien ». Bon.
Oh là là.
Voilà. Mais c'est quelque part, on avait plus l'impression que c'était un stress pour les médecins et l'hôpital que pour le couple qui allait bénéficier du don.
Puisque je vous tiens, Catherine Clavin, moi, il y a quelques questions qui arrivent ici là-dessus sur franceinter.fr et qui demandent si depuis ces trois derniers mois, donc depuis l'adoption de la loi, il y a parfois un ressenti ou une réelle discrimination contre les lesbiennes et les célibataires, puisqu'il y a de toute façon goulet d'étranglement, y compris pour les hétéros, ou c'est quelque chose qu'on ne sent pas encore ou qu'on ne sent pas du tout depuis le mois d'août.
Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on avait des réactions qui nous semblaient particulièrement étonnantes. Mais voilà, quand on annonçait des temps d'attente plus longs que ce qu'on avait l'habitude d'entendre, ça n'inspirait évidemment pas beaucoup confiance. Mais après, bon, la réflexion dont je parlais tout à l'heure, quand je disais qu'on avait entendu un centre dire apporter un donneur et votre dossier remontera dans la pile, je pense que c'est pas une caractéristique de couple de femmes, ça a dû probablement déjà bien exister avant. Donc des réflexions qui sont un petit peu étonnantes, mais on peut pas dire qu'il s'agisse en réalité de réflexions éminemment évidemment discriminatoires.
Areski, bonsoir.
Bonsoir à vous et merci de prendre mon appel.
Je vous en prie, allez-y.
Et bonsoir aux auditeurs de France Inter. Je voulais intervenir sur deux petites questions. Donc, la première, je me suis intéressé au don de sperme depuis un petit moment, donc j'ai parlé à ma femme qui est d'accord et à qui ça pose un problème. Par contre, quand je me suis renseigné bien avant l'adoption de la loi, le centre le plus proche, moi je suis à côté, le centre le plus proche est à Bordeaux, il fallait plusieurs rendez-vous pour aboutir à un éventuel don. Donc ça me paraissait un petit peu contraignant d'un point de vue logistique, déplacer plusieurs fois, etc. Et la deuxième question sous-jacente, pour information, je suis à un bas d'année qui vient de la rive sud de la Méditerranée. Donc apparemment, c'est...
Oh, ne bougez plus, on a besoin de vous.
qui intéresse un petit peu les gens. La deuxième question qui est un petit peu, je ne sais pas si on pourrait répondre, j'ai un enfant, j'ai un fils... biologique et je voulais savoir au futur, j'aimerais pas qu'il tombe amoureux de son frère ou de sa sœur dans le futur et comment on pourrait éviter ce genre de quoi qui pourrait arriver avec le don.
Eh ben, on va répondre à vos questions, Reski. Merci beaucoup. Première chose, Claire de Vienne, sur la logistique, est-ce qu'on peut imaginer, puisqu'il y a urgence, puisqu'il y a demande, d'alléger les procédures pour les donneurs?
Il est important que le candidat au don, il a un bilan médical complet. Ce bilan médical, il comporte plusieurs consultations. Idéalement, quand on arrive à toutes les mettre le même jour et le plus en plus de centres arrivent à s'organiser comme ça, c'est parfait. Normalement, c'est un don qui est engageant parce qu'on vient une première fois pour un bilan. Parfois, il faut le compléter. Et puis ensuite, quand on est un homme, c'est 4-5 recueil de spermatozoïdes qu'il faut venir réaliser. Quand on est une femme, c'est plus engageant encore puisque c'est des hormones, 10 jours d'injection, puis une ponction des ovaires au bloc opératoire. Donc oui, quand on s'engage dans cette voie-là, on est obligé de mobiliser du temps pour ça.
Donc on peut pas alléger, ni lui permettre de s'alléger son trajet, parce que je vois qu'il est de Poitiers, s'il faut aller jusqu'à Bordeaux, effectivement c'est un peu compliqué pour notre ami Areski. Et alors la deuxième partie de sa question, que je trouve formidable aussi, il faut aborder ce genre de choses, comment être sûr que son fils va pas tomber amoureux de sa sœur?
Là on en vient à la nouvelle mesure que la loi de bioéthique permet, c'est l'accès aux origines. Et l'accès aux origines permettra à toute personne qui est née d'un don de faire une demande pour connaître l'identité ou des informations autres sur la personne qui a donné. Ça répond peut-être pas complètement à la question de l'auditeur qui voudrait savoir quel est le risque pour son enfant de rencontrer la personne.
Il est assez minime, j'imagine, mais néanmoins...
Le risque semble vraiment très très peu important.
C'est important ce que vous dites, Claire de Vienne, sur ce qu'on appelle assez basiquement la fin de l'anonymat. C'est évidemment bien plus compliqué de ça. Je vous pose la question parce que Mathilde sur franceinter.fr nous dit « Je serais bien intéressée, évidemment, mais je ne veux absolument pas d'enfants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de levée d'anonymat? Y a-t-il vraiment un risque qu'on vienne frapper à ma porte dans 20 ans pour me dire « Bonjour, je suis ton fils ou je suis ta fille ?»
Alors, on préfère parler de l'accès aux origines parce que la levée de l'anonymat, c'est pas tout à fait ça, parce que quand on reçoit des ovocytes ou des spermatozoïdes, on ne sait pas qui les a donnés. Donc l'anonymat entre le donneur et le receveur, il est toujours là. La question, c'était...
Est-ce que je risque de voir quelqu'un qui frappe à ma porte dans 20 ans en disant « Bonjour, je suis ta fille » ou « Je suis ton fils ».
Alors, la filiation... on n'est pas remis en question par cet accès aux origines. Donc personne ne pourra dire « mais si, tu es mon parent ». Non, ça n'est pas possible juridiquement. Et pour le sécuriser au niveau de la loi, toutes les personnes qui font une demande de don de gamètes passent devant un notaire et signent un consentement. Et ça sécurise la filiation.
On est d'accord, pour que les gens qui nous écoutent et qui sont un peu effrayés, je me souviens d'avoir déjà dit ça lors d'une émission précédente, on ne partagera pas l'héritage en d'autres morceaux, il n'y aura rien de tout ça. On a beaucoup dit, Catherine Clavin, que ça pouvait, cet accès aux origines, effrayer un certain nombre de personnes et que c'est pour ça qu'il y aurait peut-être une baisse. Est-ce que vous le craignez réellement? Parce que on peut aussi imaginer que l'inverse est vrai, que cet accès aux origines, ça intéresse aussi une grande partie de ceux qui donnent.
Mais complètement. Mais ce qu'on a pu voir, parce qu'il y a l'expérience de l'étranger quand même.
Exactement. Hein,
la France est un peu en retard. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement ça a changé un peu la physionomie du donneur. C'est un mauvais terme. En tout cas, effectivement, ce ne sont peut-être pas forcément les mêmes donneurs.
Son profil.
Le profil du donneur sera peut-être différent. On sait qu'il y a un petit peu, il y a une période de flottement effectivement de peut-être d'un an environ. Enfin, on ne sait pas. Enfin. Difficile de dire le temps, mais il y aura une petite période de flottement, effectivement. Mais bon, il y a une organisation là dans la loi bioéthique, effectivement, pour assumer un petit peu ces changements-là, avec le fait que bien on va conserver le stock existant avec un principe d'anonymat jusqu'en novembre 2023, et puis les règles changeront ainsi. Donc, on essaie de faire un changement en douceur, de manière à ce que on ait moins de cette période de flottement. Bon, peut-être, hein, peut-être effectivement, on verra à l'usage, je dirais, hein, effectivement, si ce changement de paradigme sur l'anonymat crée effectivement une pénurie plus importante.
Claire de Vienne, ça vous fait peur ou est-ce qu'au contraire, effectivement, comme le disait Catherine Clavin, quand on regarde les exemples à l'étranger et même un certain nombre de témoignages d'ailleurs qu'on peut avoir à de multiples occasions, au contraire, ça change les profils et ça donne une manière de faire ce don qui est très différente.
Les profils évoluent et ils ont commencé déjà à évoluer même avant que la loi soit promulguée, parce qu'on en parlait beaucoup dans les médias. Et donc les professionnels rapportent que les donneurs sont tous informés du fait que la loi évolue maintenant, est passée. Et en général, ils ont des retours plutôt de personnes qui seraient prêtes à modifier leur consentement, parce que ça va être possible. Les donneurs qui viennent actuellement et jusqu'au 1er septembre 2022, ce seront des donneurs qui ne consentent pas à l'accès aux origines. À partir du 1er novembre 2022, tous consentiront.
Novembre, je crois que c'était septembre.
Septembre.
Septembre, d'accord.
Et les donneurs, je dirais les anciens donneurs, pourront dire, moi je souhaite modifier mon consentement. Par contre, tous les donneurs, et là je tiens vraiment à les rassurer, toutes les personnes qui ont déjà fait un don, s'ils ne font aucune démarche, on ne divulguera jamais leur identité auprès des personnes qui le demanderont éventuellement.
Mais on va détruire, en revanche, on détruit les paillettes.
Et un jour, mais on ne sait pas encore quand, le stock sera détruit. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de beaucoup de donneurs, c'est qu'il va s'agir de reconstituer le stock de donneurs pour l'avenir.
Céline, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Céline.
Déjà, je suis très très émue d'entendre parler de tout ça. Parce que déjà je passe à la radio, c'est pas quelque chose de commun. Mais c'est surtout j'ai bénéficié d'un don il y a 10 ans. Et je remercie vraiment moi toutes les donneuses, parce que c'est grâce à une donneuse que j'ai pu avoir un fils magnifique aujourd'hui, qui a 10 ans, qui me ressemble, dit-on. Et c'est un vrai bonheur que d'être maman grâce à tout ça. Et je voudrais aussi dire que pour avoir un don, j'ai mobilisé mes amis. Je leur ai dit que j'avais besoin d'une donneuse. Et donc j'ai une amie qui s'est tout de suite présentée et voilà, c'était une très belle aventure pour moi, pour cette amie qui a pu participer à ça. Et puis ça a donné envie aussi à d'autres autour de moi de donner. Voilà, ça a été une très belle chaîne d'amour.
Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage, Céline. J'ai quand même une petite question, si vous le permettez. Si vous avez préféré venir avec une de vos amies, si vous avez mobilisé vos amis, comme vous dites, est-ce que c'est parce que pour vous, au fond, ça rendait la démarche plus facile? Est-ce que c'est ça la raison, ou est-ce que c'est simplement une histoire d'embouteillage et de difficulté, et on se dit que là, ce sera plus simple avec quelqu'un qu'on connaît?
Alors clairement, on m'a dit, si vous ramenez une donneuse, vous aurez un don plus rapidement. Donc je me suis dit, ben moi je vais chercher pour moi, et puis aussi parce que la donneuse que moi je vais rapporter, ce sera pas pour moi, ce sera pour une autre femme, pour d'autres femmes.
Eh ben merci beaucoup Céline pour ce témoignage, vraiment Claire de Vienne, c'est des Céline comme ça qui peuvent en convaincre d'autres aussi.
Un témoignage comme ça, il vaut toutes les campagnes.
Voilà, ben merci beaucoup, vraiment. Écoutez Jonathan sur franceinter.fr, je suis un homme, je souhaite donner, j'habite dans un DOM. Il n'y a pas de centre dans ma région pour pouvoir donner, il faudrait que je le fasse à l'occasion d'un voyage, mais comment ça se passe du coup? Alors est-ce que c'est long? Vous nous l'avez un petit peu expliqué. Plus long évidemment que qu'un simple don du sang, nous dit notre ami Jonathan.
Il y a des DOM où il y a des centres de dons de spermatozoïdes, il est dans quel DOM?
Alors je ne sais pas, ça n'est pas marqué.
Il y en a un notamment à La Réunion. En Guadeloupe, il y en a un également qui, pour l'instant, n'a pas pu reprendre son activité. Mais effectivement, à l'occasion d'un voyage en France, il est tout à fait possible de contacter en amont du voyage un centre de dons et puis d'essayer d'organiser, de regrouper le maximum de rendez-vous.
Voilà une question intéressante, celle de Clervia qui dit « Savez-vous pourquoi il y a deux fois plus de donneuses que de donneurs, alors que la procédure pour la femme est 1000 fois plus contraignante que pour l'homme ?» Ce qui était une réalité, j'en sais en connaissance de cause, puisque j'ai donné deux fois, nous dit Clervia, et que j'ai donné de bon cœur.
Formidable. Les donneuses, elles donnent en moyenne 10 ovocytes. Et en moyenne, quand il faut deux dons pour qu'un enfant naisse pour les ovocytes, alors que les spermatozoïdes, on en congèle énormément et on peut aller jusqu'à avoir plusieurs enfants. D'ailleurs, je rappelle, c'est maximum 10 enfants qui naissent d'un don d'une personne. Et on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de donneuses. 800, c'est pas du tout assez. Chaque année, il y avait, avant la promulgation de la loi, 4000 personnes qui n'avaient pas eu de dons et qui attendaient sur une liste d'attente, sans compter ceux qui étaient obligés d'aller à l'étranger. Donc, il faut multiplier par un facteur important pour faire face à tous les besoins des Françaises.
Est-ce qu'on peut expliquer aux femmes qui nous écoutent jusqu'à quel point c'est compliqué, plus intrusif qu'un simple don de sperme, effectivement, de faire un don quand on est une femme?
Quand on est une femme, ça a un impact important sur la vie quotidienne, la vie de famille, le travail. Il faut faire des injections, on peut faire soi-même, mais souvent c'est une infirmière qui vient les faire à la maison. Il faut pouvoir se libérer 2-3 fois pour venir dans le centre, faire échographie, prise de sang.
2-3 fois par?
Pendant les 10 jours du traitement.
Pendant 10 jours, oula, oui.
Et quelquefois, c'est la veille pour le lendemain. On vous dit, bon, bah, demain, venez faire l'échographie. À l'issue de ces 10 jours de traitement, c'est une ponction des ovaires. Donc là, c'est comme une échographie vaginale qui se passe au bloc opératoire. Et on voit très bien l'aiguille qui vient aspirer tous les ovocytes qui auront été stimulés à ce moment-là. Alors, je tiens à préciser que c'est pas des traitements qui vont épuiser le stock. Donc, ça baisse pas la fertilité, ça n'avance pas l'âge de la ménopause. C'est juste, on utilise tous les ovocytes qui, ce mois-là, de toute façon, s'étaient mis en croissance. Et à l'issue de cette ponction, la femme, elle rentre chez elle, elle peut reprendre le travail le lendemain, le surlendemain. Ça reste quand même très engageant tout ça. Mais le témoignage de l'internaute montrait bien que c'est compensé par l'engagement qu'on a de ce plaisir de savoir qu'on rend service à une autre femme.
Est-ce que vous diriez, Catherine Clavin, que maintenant que la PMA est ouverte aux femmes seules et aux couples lesbiens, qu'il peut y avoir, précisément au nom de ce que dit Claire de Vienne, quand on a eu la joie d'avoir un enfant, on sait aussi comment on a envie de la faire partager. Est-ce que cette ouverture, ça dit aussi ça? Ça peut dire aussi qu'il y aura plus de dons de la part de certaines femmes qui pourront connaître la joie d'avoir un enfant et aimeraient la faire partager à d'autres?
Ben, en tout cas, on l'espère. Et puis, les associations vont œuvrer pour, de toute façon, encourager, notamment avec la campagne de dons qui vient d'être diffusée, qui est en cours de diffusion. On va tout faire, évidemment, pour encourager ces dons. Et je crois que les expériences qui peuvent être diffusées, émises, ne peuvent qu'encourager, parce qu'on a entendu tout à l'heure le témoignage de cette auditrice qui nous dit c'était formidable. Et c'était l'événement de sa vie, etc. Donc ça ne peut qu'encourager évidemment au don, à partir du moment où on comprend ce qu'est un don aussi, où on l'a répété tout à l'heure, un donneur ce n'est pas un père, c'est un donneur, c'est un géniteur. Alors il fait le bonheur évidemment des parents pour lesquels il va, sans le savoir d'ailleurs, puisqu'il ne saura jamais à qui il a donné, il fait le bonheur des gens. Et voilà, donc c'est une action absolument formidable, et dans la mesure où elle est très bien encadrée et où on garde bien son rôle de donneur et où tout le monde saura qu'il est donneur mais qu'il n'est pas père, mais il n'y en a pas de raison effectivement que ça n'encourage pas au don.
Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, Claire de Vienne. Lorsqu'on est un homme et qu'on vient donner son sperme, on n'arrive pas en disant, et j'aimerais que ce soit pour un couple hétéro ou pour un couple gay, que ce soit bien bien clair.
Que ce soit bien clair, il n'y a aucune discrimination possible.
On est d'accord, c'est important de le dire. Il nous reste une petite minute, mais Joanne a une question qui est extrêmement simple. On vous écoute, Joanne.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question.
Allez-y.
J'utilise une contraception masculine. Et j'aurais voulu savoir...
Donc on va vous mettre sous verre, Joanne, si je puis me permettre.
Et bah, du coup, j'aurais voulu savoir si le fait d'utiliser une contraception, alors masculine en l'occurrence, mais féminine également, si c'était problématique pour faire un don de sperme. Ou de vos sites.
Alors pour faire un don de sperme, il faut avoir une fertilité au top. Donc c'est pas compatible avec une contraception masculine au long cours. Et pareil pour les femmes, tout ce qui est hormonal ne peut pas être poursuivi pendant le traitement. Par contre, on peut garder son stérilet au cuivre.
Et donc Joanne, là par exemple, il faut qu'il arrête pendant combien de temps ?
Le temps que la spermatogénèse se remette en route, et ça c'est 3 mois.
Bon, bah faites repartir votre spermatogénèse, Joanne. On vous remercie vraiment beaucoup. Merci à toutes les deux de votre présence au téléphone sonne. Merci à tous pour vos très nombreuses questions. Je ne pars pas sans remercier Henri Bérec et Renan Maé qui étaient à la technique ce soir. Tristan Gratalon à la réalisation. Amélie Stadenman et Emma Ferré s'occupent de la programmation. Clémentine Ducasse est au site et on vous embrasse.